Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Silver Economy Expo, puis à cette toute première conférence que je vais avoir le plaisir d'animer en tant que journaliste déjà senior, intéressé par ces questions. En deux mots, moi je suis journaliste, je travaille pour le magazine Pleine Vie, je fais des dossiers santé pour ce magazine pour seniors, et puis j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur des grands seniors, notamment les centenaires, qui est un phénomène qui m'intéresse. Mais là, on va descendre un peu, je vous rassure, dans la tranche d'âge. On va pas s'intéresser en priorité aux centenaires, mais on va s'intéresser à cette population des plus de 50 ans qui représenteront dès 2015, donc c'est demain matin, plus de 54%, rendez-vous compte, des dépenses de consommation. Autrement dit, tout ce qui est marché du logement, des loisirs, des transports, du bien-être, de la sécurité, l'alimentation, des télécommunications et des services, tout ce que vous allez pouvoir voir pendant ces deux jours de salon, eh bien tout ça, ça représente un certain nombre de marchés avec des opportunités très intéressantes pour les chefs d'entreprise, et c'est ce dont nous allons parler ce matin avec nos cinq intervenants. Je vais vous présenter dans quelques secondes. Je voudrais simplement vous signaler que les conférences que vous allez pouvoir entendre pendant ces deux jours seront toutes enregistrées en audio et elles pourront être écoutées sur le site du salon au cours de ces prochaines semaines. Il faudra attendre un tout petit peu. Alors, je vais commencer par mon voisin, Franck Levédé. Il est chef de projet senior au CREDOC, Centre de recherche pour l'étude des conditions de... et l'observation, j'oublie toujours le haut, l'observation des conditions de vie. On connaît tous le sigle CREDOC, titulaire d'un troisième cycle d'économie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est entré au CREDOC en tant que chargé d'études et de recherche en 2001, devenu chef de projet senior en 2009, chargé de manager les études marketing et communication au sein de ce département. Et vous analysez donc, monsieur Levédé, l'impact du vieillissement de la population sur les attitudes et les comportements des consommateurs et ses conséquences sur la stratégie des entreprises. Alors, ensuite, avec l'écharpe orange, monsieur Moineau, n'est-ce pas ?
Exactement, bonjour.
Julien Moineau, fondateur et PDG d'Axéo Services. Persuadé, vous êtes, monsieur Moineau, que les consommateurs recherchent un prestataire unique de service, pouvant leur garantir une qualité de service, quelle que soit la prestation réalisée. Alors d'abord, vous avez créé une enseigne qui possède déjà en France de très nombreuses agences de services à la personne. Combien exactement ?
165 aujourd'hui.
165, hein, donc voilà, avec une large gamme de prestations. Et puis vous avez lancé également un réseau d'entreprises d'aménagement du domicile pour les personnes âgées et handicapées qui s'appelle Axéa Vita. Et je précise qu'Axéo est présent sur le salon, qu'on peut aller visiter votre stand.
Exactement, Axéa Vita également.
Voilà, j'ai dit l'essentiel ? Bon, parfait. Monsieur El Manani, vous êtes fondateur de Gesnor et président de la section Artois du Centre des Jeunes Dirigeants. En 2004, vous avez créé votre entreprise GES Flandre. C'est une plateforme téléphonique dédiée aux professionnels de santé dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous avez intégré ce mouvement de chefs d'entreprise, le Centre des Jeunes Dirigeants, en 2008. De 2009 à 2011, vous avez été responsable régional diversité, et c'est une association qui organise un tour de France de la promotion de la diversité en entreprise, et vous avez une conférence sur les travailleurs handicapés. 2012-2014, vous êtes devenu président de la section Artois du CJD. De 2012 à 2013, vous avez participé à l'expérimentation de l'économie de la fonctionnalité et des nouveaux modèles économiques, et vous êtes membre du conseil d'administration de FAS, c'est la fondation Agir contre l'exclusion. Et puis tout récemment, donc pour ce qui nous occupe, 2014-2015, vous êtes responsable donc régional de l'expérimentation nouveau modèle économique, pardon, au sein du CJD Nord-Pas-de-Calais. On continue notre tour d'horizon, mais on a presque terminé. Monsieur Mezzantin, qui est au bout, en fait. Oui, je vais continuer dans l'ordre, hein, pas qu'on se trompe. Pascal Cadeau, directeur général de la Girondière. Vice-président du syndicat national des résidences avec services pour aînés. Vous avez fondé les résidences services seniors, la Girondière, en 1994, donc vous en êtes le directeur général. Vous êtes également à l'initiative de la création de ce syndicat, le SNRA, le syndicat national des résidences avec services pour aînés, dont vous êtes aujourd'hui le vice-président. Combien de résidences avec services pour aînés regroupées au sein de ce syndicat, monsieur ?
580.
Voilà, 580. Alors vous ferez comme moi, messieurs, vous parlerez bien près du micro, on n'a pas encore de micro main. On pourra vous en distribuer à la toute fin de la réunion pour que vous puissiez poser, mesdames et messieurs, quelques questions. Et je termine par Philippe Mezzantin, administrateur de la Fédération française de domotique, en charge de la commission Handicap et Silver Economy. Après une vingtaine d'années passées au sein de grands groupes industriels du secteur des MTIC, vous avez cofondé en 2009 le groupe Medetic, qui est dédié à la conception de solutions globales et innovantes d'habitats connectés destinés aux publics dépendants. Société spécialisée dans l'intégration de solutions éco-énergétiques et de télésanté et orientée donc sur l'autonomie, l'accessibilité. Vous avez une filiale Medetic Technologie qui accompagne les porteurs de projets, les collectivités, les bailleurs sociaux, les exploitants de structures de services de la phase de la conception globale du projet, en passant par l'accompagnement du déploiement sur le terrain jusqu'à la mise en exploitation des structures et des plateformes de services associées. Voilà pour cette présentation. Vous faites tous, messieurs, beaucoup de choses. Ça méritait donc qu'on puisse passer un tout petit peu de temps. Pour planter le décor, je vais d'abord vous proposer, mesdames et messieurs, de donner la parole à mon voisin, à Franck Levédé, du CREDOC, qui va nous donner quelques chiffres clés qu'il faut connaître sur la démographie, le vieillissement et la consommation des seniors en France. Vous allez voir que c'est effectivement un marché impressionnant, très important.
Très bien, ben merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde et donc de voir commencer en plantant le tableau. Alors, un tableau que je voudrais d'abord construire au niveau démographique avec un élément que vous connaissez tous, c'est que, ben, en effet, par le fait que nous avons eu une forte démographie après les guerres, eh bien, on a aujourd'hui un développement conséquent des populations seniors. Alors, vous voyez ici, en 2008, en plein la situation démographique, donc lors de l'année 2008, avec, j'étais très original en mettant en femme les femmes en rose et les hommes en bleu. Et vous voyez le trait donc que j'ai rajouté dessus, c'est la situation en 2020. Donc on voit bien qu'en effet, il y a une croissance des populations au-delà de 50 ans dans la population française. Et c'est surtout celle-ci qui aujourd'hui est en croissance, puisque quand on regarde les plus âgés, il y a certes une croissance, mais on est encore aujourd'hui sur des populations qui sont moins nombreuses. Par contre, lorsque on se reverra dans 10 ou 15 ans, ben, ce ne seront plus les jeunes seniors qui seront en forte croissance, ce seront les seniors les plus âgés. Donc voilà, premier élément en matière démographique. On a aujourd'hui une quarantaine de pourcents de la population qui a plus de 50 ans. Donc pendant longtemps, on a beaucoup travaillé sur les familles, sur les jeunes. Aujourd'hui, il faut toujours penser à ces familles et ces jeunes. Mais il y a aussi un marché qui, mécaniquement, hein, démographiquement, en termes de quantité, est important et se développe au niveau des seniors. Alors, quel marché se développe? Eh bien, tous les marchés se développent. Ce travail que nous avons réalisé pour le ministère de l'économie montre, à partir des données des enquêtes budget des familles, en faisant des projections en fonction de la démographie, en fonction des tendances de consommation, des propensions à consommer de chaque catégorie d'âge, que même sur des secteurs qui sont assez peu ou moins développés auprès des seniors, donc l'enseignement par exemple, ben, mécaniquement, par le fait que démographiquement on a plus de seniors, on a une croissance de l'ensemble des marchés français, avec certains qui sont plus en croissance que d'autres. C'est le domaine de la santé, bien entendu. En vieillissant, on a des besoins en termes de santé qui se développent. Hein. Sachez que les dépenses de santé des ménages se font surtout à partir de 75 ans, à partir en fait du moment où on n'est pas dépendant, mais on commence à avoir régulièrement des problèmes de santé récurrents. Le deuxième secteur sur lequel on a des dépenses importantes chez les seniors et qui vont croître fortement, c'est l'alimentation. On a un effet générationnel très très fort sur les dépenses d'alimentation, c'est-à-dire qu'à un même âge, pour une même catégorie de personnes, les plus jeunes consomment nettement moins, dépensent nettement moins en alimentaire. Les seniors sont des catégories qui continuent à accorder une part importante de leur budget à l'alimentation. Et donc, sur ce secteur, on arrive à des dépenses qui seront en 2015, c'est-à-dire là, dans un mois, à 60% de l'ensemble des dépenses que les ménages réalisent en matière alimentaire. Les autres services, alors il faudra que l'INSEE éclate cette catégorie un jour parce qu'elle prend de plus en plus d'importance, ce sont les services d'assurance, ce sont les services à la personne qui se trouvent dans ce secteur. Et là, on a en effet des croissances très fortes auprès des seniors. L'équipement du foyer, il y a un certain nombre de besoins en matière d'équipement du foyer pour adapter au vieillissement, mais aussi simplement pour renouveler son intérieur. Et le passage à la retraite est un moment très très important. Le départ des enfants aussi est un moment très important où on renouvelle son équipement à l'intérieur des foyers. Et c'est le moment où en fait les jeunes générations de seniors aujourd'hui, parce qu'elles connaissent leurs parents ayant quelques difficultés dans leur logement, sont prêts à écouter, à entendre un discours qui leur dit si vous faites ces travaux-là, faites-les de telle sorte que vous puissiez, quand vous serez un peu plus âgé, quand vous aurez un peu plus de difficultés à vous déplacer, toujours capable de vivre dans ce même logement. Les loisirs, bien entendu, donc ça c'est surtout pour la première catégorie de seniors, où on a en effet du temps libre, où on a un niveau de revenu important, où on a eu l'habitude d'avoir des loisirs, et bien les loisirs sont des secteurs aussi sur lesquels les seniors sont très fortement développés. Vous voyez que sur tous ces secteurs, on a plus de 50% des dépenses qui sont réalisées par les plus de 50 ans. Donc on est là sur des secteurs sur lesquels, bien évidemment, la majorité de la clientèle ou la majorité des dépenses sont réalisées par les plus de 50 ans. Toutefois, parler des plus de 50 ans, c'est comme si je mettais le grand-père, le père et quasiment l'enfant dans la même catégorie. Donc on a 2 à 3 générations aujourd'hui qui se trouvent dans ces catégories des seniors. Et bien entendu, ils ne se sont jamais vus comme appartenant à la même classe, à la même catégorie. Il n'y a pas de raison qu'arriver après 50 ans, ils se disent « Ok, maintenant, nous sommes dans la même catégorie ». Et vous avez des éléments donc psychologiques qui font qu'en effet on ne s'identifie pas à la même catégorie de population, mais il y a aussi des éléments sociétaux. Et on a essayé à travers l'étude que nous avions réalisée donc pour le ministère de l'économie d'imaginer quelles étaient les ruptures qui faisaient qu'on passait d'une catégorie à l'autre. Plutôt que de travailler je dirais en tranche d'âge, on a essayé de travailler en moment de vie. Donc l'entrée se fait très clairement au moment où les enfants s'en vont, lorsque Tanguy part enfin de la maison. On a envie de changer sa vie, on a besoin de modifier l'organisation du logement, on a plus de temps libre, on a plus d'argent également. Donc là, il y a un premier élément et c'est l'entrée dans l'âge du senior que le départ des enfants. Ce premier âge va jusqu'à la retraite et on a à peu près 36% des seniors aujourd'hui qui sont dans cette catégorie-là. Ensuite, la retraite est bien sûr un élément fondamental de modification et de changement des modes de vie. On a là d'un seul coup une diminution de ses revenus, on a beaucoup plus de temps libre qui apparaît, on doit apprendre à vivre avec son conjoint, ce qu'on avait un peu oublié parce qu'on était quand même beaucoup à l'extérieur. Et donc il faut entretenir ce temps libre, il faut organiser sa vie de façon différente que lorsqu'on est actif. La retraite nous amène jusque, je dirais, au premier petit problème de santé ou problème conséquent mais qui n'est pas de la dépendance, où là on a souvent des retraités qui sont encore en couple mais qui sont moins à l'aise. Donc d'un seul coup, l'arrêt de la conduite automobile amène à une moindre activité sociale et on a une deuxième phase qui est passée dans les catégories des seniors. Là, on a à peu près aujourd'hui un quart des seniors qui sont dans cette catégorie-là. Troisième catégorie, les retraités âgés mais toujours en couple. Donc là, beaucoup moins d'activité sociale mais une vie toujours en couple et autonome parce qu'on est deux. Et puis enfin, dernière catégorie de population, lorsque l'un des deux disparaît, et là on arrive sur le veuvage, et là on rentre sur le grand âge, sur la période où la dépendance va apparaître, on a 20% de la population qui se trouve là. Alors, vous voyez, des catégories différentes, avec des besoins différents, et avec des niveaux de revenus et des niveaux de dépenses qui sont fortement différents. Lorsque on regarde les données de l'INSEE, on s'aperçoit donc en vert que les seniors qui sont par ménage les plus riches, ce sont bien sûr les seniors actifs, puisqu'ils sont au fait de leur carrière, ils ont souvent deux sources de revenus, l'homme et la femme. Et là, on a donc des niveaux de revenus qui sont importants, avec des niveaux de dépenses de consommation qui sont aussi élevés. Et là, vous allez avoir les secteurs du logement, de l'équipement de l'habitat, des loisirs, des technologies de l'information et de la communication, les secteurs assez classiques en fait des dépenses de consommation, mais avec un niveau en fait qui est supérieur à celui de la population française. Ensuite, vous arrivez chez les jeunes retraités. Alors eux, ils ont décidé de tout mettre dans la consommation. Vous voyez que par rapport à leur niveau de revenus et leur niveau de consommation, on est quasiment au taquet. Donc là, il y a peu d'opportunités, puisque c'est l'objectif de cette intervention, il y a peu d'opportunités chez eux à développer de la consommation parce que ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et comme le niveau de pouvoir d'achat ne va sans doute pas augmenter dans les années à venir, grande prévision du Crédoc que je vous fais ce matin, eh bien eux vont être particulièrement touchés par cette dimension-là. On les retrouve sur les loisirs, l'équipement de la maison également, l'alimentation qui se développe plus dans ces populations, mais encore assez peu sur les dépenses de santé, par exemple. Ensuite, on arrive donc sur notre catégorie des retraités âgés en couple, où là, d'un seul coup, il nous a semblé qu'il y avait des opportunités à ce niveau-là, parce qu'en fait, on a des dépenses qui sont, enfin des revenus qui sont importants, mais des dépenses qui sont très faibles. Et ce qui l'explique, puisqu'on a fait un travail qualitatif sur cette catégorie, c'est qu'en fait, ils ne trouvent pas des produits adaptés à leurs besoins. Comme ils sont dans un début de difficultés liées au vieillissement, plus de difficultés à prendre les objets, plus de difficultés à voir ce qui est noté, plus de difficultés à se déplacer, si on n'adapte pas les produits à ces conséquences du vieillissement, eh bien les gens arrêtent d'acheter des produits. Un des exemples phares, et peut-être le premier sur lequel cette question a été posée, c'est le pèse-personne. On a une grande société française qui fait des pèse-personnes et qui ne comprenait pas qu'après 70-75 ans, elle n'en vendait quasiment plus. Alors elle a essayé de comprendre, elle a interrogé les gens, elle a fini par aller les observer. Et elle s'est juste aperçue que lorsqu'on avait des petits problèmes liés au vieillissement pour se déplacer, par exemple, monter sur le pèse-personne était un phénomène d'inquiétude et un phénomène d'incertitude, on avait peur de tomber. Et puis même lorsque vous étiez monté dessus, comment vous faisiez pour voir le poids ? Il valait peut-être mieux pas le voir. Mais en tout cas, si vous deviez le voir, c'était difficile d'y arriver. Donc il faut adapter les produits de telle sorte que les gens puissent monter facilement sur un pèse-personne et avoir le poids qui apparaît en hauteur pour qu'ils puissent le voir. Donc tout ce qu'on appelle le design universel, les innovations d'usage sont fondamentales pour cette catégorie et là il y a des opportunités de développement de l'activité. Enfin, dernière catégorie où là on a de très fortes baisses de revenus, on est sur des générations qui souvent beaucoup plus féminines, souvent n'ont pas travaillé, se retrouvent avec des revenus nettement plus faibles et du coup là les dépenses se développent sur l'alimentaire et sur la santé en grande partie, il y a assez peu d'autres choses dans leur secteur, les loisirs sont terminés, les dépenses de communication sont très faibles. Donc on voit bien que là, c'est l'entrée dans la dépendance ou la préparation de la situation de dépendance qui existe. Voilà très vite ce que je voulais vous présenter en introduction de cette table ronde.
Merci beaucoup, Monsieur Lehuédé, pour cette présentation. Alors, j'allais vous poser une première question, mais vous y avez répondu très, très rapidement et très facilement. Il n'y a évidemment pas une seule catégorie de seniors, il y a deux ou trois, il y a trois voire quatre catégories. On va s'intéresser surtout ici à celles qui sont les plus dépensières, j'ose prononcer le mot, celles qui consomment le plus, celles qui ont un fort pouvoir d'achat, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de la dépendance, sachant qu'après, comme vous nous l'avez dit, malheureusement, les dépenses et les besoins sont moindres. Messieurs, les besoins, les attentes clairement identifiées, j'aimerais qu'on fasse un premier tour de table. C'est quoi pour vous l'essentiel ? Quelles sont, selon vous, les attentes essentielles, les priorités pour les seniors d'aujourd'hui ? Ce sur quoi il faut faire porter les efforts ? On commence par vous, cher monsieur, à l'écharpe orange.
Nous, ce que nous pouvons constater chez Axéo, c'est des besoins forts en termes de services, que ce soit les services de confort. Donc le confort, tout ce qui va toucher plutôt à l'entretien de la maison. Plus on va avancer dans l'âge, moins on aura la capacité physique de réaliser des tâches ménagères, de réaliser l'entretien de son jardin, du bricolage, etc. Et plus nos clients avancent en âge, et plus ils ont besoin également de prestations d'assistance à la personne. Donc là, on va aller dans des prestations qui sont beaucoup plus lourdes en termes de lever, coucher, aide à la toilette, voilà. Et également, c'est pour ça qu'on s'est également développé sur une autre activité qui est l'aménagement du domicile, puisque vieillir à domicile c'est quelque chose, vieillir dans la 87% des Français veulent vieillir chez eux, mais pour beaucoup, leur maison n'est pas adaptée pour. Voilà. Donc, ça nécessite des travaux en termes d'aménagement de la salle de bain, de la cuisine, des escaliers, etc.
Monsieur El Manani, pour vous, c'est quoi la priorité? Quand on regarde les besoins, les attentes.
Partir peut-être des attentes, c'est-à-dire prendre un peu de hauteur par rapport à ça, c'est l'autonomie le plus longtemps possible. Voilà, c'est vivre en autonomie le plus longtemps possible, que du senior actif au veuvage. Ça veut dire être en bonne santé, être suivi régulièrement, mais également tout ce qui est activité. Donc les secteurs à fort potentiel, c'est tout ce qui est, on va dire, du coaching, de l'activité sportive, mentale et de l'accompagnement au quotidien. Des liens sociaux très forts, souvent ils fonctionnent en tribu. On va dire que les seniors actifs aujourd'hui ou les retraités, et c'est pour ça qu'ils ont des dépenses d'alimentation certainement qui sont beaucoup plus importantes. Il y a encore ce lien social qui est très fort, vivre avec des amis, recevoir fait partie de leur manière de fonctionner aujourd'hui. Donc gros consommateurs de voyages, donc tout ce qui est organisation de voyages, participation à des événements, ils ont besoin d'être actifs, donc de s'impliquer également dans la société. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent facilement accéder à des associations, bénévolat, être utile. C'est vraiment se sentir utile dans la société et dans l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort très souvent. Et ce lien intergénérationnel. Parce qu'ils sont souvent, les seniors, on va dire les seniors actifs, sont souvent entre les personnes âgées qui sont au-dessus, dont ils s'occupent, donc souvent les aidants, et les plus jeunes, dont ils s'occupent également, puisqu'ils sont souvent scolarisés, etc. Donc c'est une population qui a un vrai rôle dans la société, qui a du temps et donc qui a besoin de vivre à la fois ce besoin d'être utile dans la société. Dernier point, je parlerai là plutôt de la fin de vie, où là ça va être, comme disait mon voisin, donc l'aménagement de l'habitat, la fort potentiel, puisque quasiment la majorité des seniors aujourd'hui veulent avoir une fin de vie à domicile.
Alors, je retiens déjà ce que vous avez dit. Vous avez parlé beaucoup de confort, de produits, d'attente autour du maintien, de l'autonomie le plus long possible. Vous parlez beaucoup du lien social, tous les produits, toutes les attentes autour du lien social, ce qui fait qu'on va pouvoir rester dans la société, y rester actif, y jouer pleinement son rôle. Vous, messieurs, je me tourne maintenant vers monsieur Cadeau. Les attentes principales que vous avez identifiées dans votre activité, en sachant donc que vous êtes vice-président du syndicat national des résidences avec service pour aînés. Donc là, vous êtes dans les résidences. On est quand même lâché dans la dernière tranche d'âge.
Oui, on est plus, nous, sur un public fragilisé, 75-84 ans, puisque après 85 ans, malheureusement, très souvent, la dépendance arrive. Donc on vient vers les résidences-services quand la maison devient trop grande, que les enfants sont partis déjà depuis belle lurette, que le veuvage arrive, que la solitude pèse énormément, qu'on s'est retrouvé déjà plusieurs fois aux urgences, aux embouteillages, et que tous les déplacements dans la ville deviennent quand même de plus en plus difficiles. Je le voyais encore ce matin dans cette belle ville de Paris, dès que vous devenez légèrement dépendant, vous ne pouvez jamais prendre le métro parce que vous montez des marches, vous descendez, c'est impossible de âger. Vivre à Paris, c'est quand même très difficile. On a la chance, dans les villes rurales, d'avoir ce lien social qui lie les gens et qui leur permet de continuer de vivre à domicile le plus longtemps possible. Dans les milieux urbains, c'est dès que vous vous adressez à quelqu'un pour lui demander quelque chose, vous avez l'impression qu'on va lui voler son porte-monnaie ou autre. Donc c'est quand même beaucoup plus difficile de vivre en grande ville. Et on le voit très nettement vers les gens qui rejoignent nos structures.
On passe la parole à monsieur Mezzantin, donc administrateur de la Fédération française de domotique. Alors vous allez nous parler de domotique dans les besoins, les attentes, c'est important.
Alors entre autres, effectivement, il faut considérer que la domotique et les technologies de manière générale peuvent constituer un appoint, un complément à toutes les autres formes d'accompagnement de la perte d'autonomie, et non en aucun cas, je tiens à le souligner, vocation à s'y substituer. Pour répondre à votre question de manière plus générale, moi je pense que l'attente des personnes âgées tient grandement dans la flexibilité des offres et la capacité d'adaptation de la réponse. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. D'abord parce que l'âge ne constitue pas un critère en matière de gérontologie qui permette de faire rentrer les gens dans des cases. Il faut que l'offre, la réponse soit adaptée aux besoins de chacun. On est dans une activité tout à fait particulière où le cœur du sujet, c'est l'humain avant tout. C'est la principale, le principal objectif qu'il faut avoir dans les réponses que l'on apporte, et il faut aussi bien avoir en tête que même à point de départ égal en termes de capacité physique et intellectuelle, et bien au fur et à mesure où le temps avance, nous aurons des évolutions, chacun d'entre nous, qui seront totalement différentes. Et la clé du succès dans la réponse, c'est d'avoir cette capacité à suivre l'évolution de la personne de manière différente en fonction des différentes situations.
Flexibilité, adaptabilité, si j'ai bien retenu les mots-clés. Puis vous avant, monsieur, parliez beaucoup de la ville, hein, des aménagements en ville, pour intégrer les personnes âgées en ville notamment. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Alors, on a vu les attentes, les besoins. On est ici aussi pour parler de produits. Alors, des produits, il y en a plein. Hein, je disais en introduction, produits de bien-être, de santé, produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les produits d'équipement à domicile. Il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des propositions d'événements, enfin, des tas de choses. Mais c'est quoi les priorités? Parce que ce salon existe depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a beaucoup d'exposants. Vers quoi il faut aller? Est-ce qu'il y a des produits spécifiques sur lesquels les marchés sont encore vierges, sont peu défrichés? Vers quoi il faut aller? Quels produits en priorité? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce qu'on est là pour prendre vos conseils, messieurs.
Tout dépend de l'âge, je vous dirais.
Voilà,
en fait,
bien sûr.
Si vous êtes actif, vous avez besoin de les produits, ça va être essentiellement ce qu'on a vu tout à l'heure lors de la présentation du Crédoc, c'est-à-dire des besoins de santé, certes, des besoins de voyage, de facilitateurs du quotidien. Voilà, en gros, c'est se dire, écoutez, là, je suis à un moment de ma vie où je peux me faire plaisir, je suis dans le confort. Pour les seniors actifs, c'est vraiment se dire, écoutez, moi, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Qu'est-ce qui pourrait entretenir ces attentes et ces besoins? Donc, je vais revenir sur l'aspect humain, c'est-à-dire se dire, quoi qu'il arrive, il faut que les produits soient pas compliqués, simples d'utilisation, pour essayer de cibler le plus large possible. Pas les cibler de manière technologique, mais de la manière dont vont se servir les personnes de ces produits, c'est-à-dire à l'usage. C'est quoi l'usage qu'ils vont en avoir au quotidien, et pas vendre toutes les capacités comme on vendrait un logiciel avec des capacités énormes. C'est de se dire, voilà, mon produit répond à quel usage, à quelles attentes, et il sera au plus proche des besoins et il répondra plus précisément aux attentes des consommateurs.
Je retiens ce que vous dites, vous privilégiez l'usage avant l'innovation technologique à tout prix, qui pourrait être parfois compliquée pour les personnes âgées, qui pourraient s'y perdre. Vous êtes d'accord, messieurs, notamment qui travaillaient dans la domotique, monsieur?
Tout à fait. Et au-delà de privilégier l'usage, il faut aussi que ces produits aient un caractère non intrusif dans la vie au quotidien. Encore une fois, les technologies ne sont pas là pour envahir l'univers dans lequel vit la personne sur la voie de la perte d'autonomie. Il y a différents temps de vie, comme les analyses du Crédoc le démontraient très justement tout à l'heure. Il y a différents temps de vie qui vont nécessiter différents besoins, différentes approches, différents usages auxquels il va falloir que ces solutions puissent s'adapter. Et ça, la conséquence essentielle, c'est que ça nécessite une nouvelle forme de déploiement de ces solutions sur le terrain. On ne déploie pas de la technologie au sein du domicile d'une personne en perte d'autonomie, comme on le ferait chez vous et moi, où on va poser une télévision sur un meuble, laisser un mode d'emploi et puis partir sans s'en préoccuper. La dimension d'accompagnement et d'accompagnement permanent est extrêmement importante. Il faut, apprendre à la personne à apprivoiser les produits, les technologies, les solutions que l'on met à sa disposition, et encore une fois, être là de manière continue pour pouvoir accompagner sa propre évolution et l'évolution de son propre besoin. C'est ce qui est primordial.
Je rebondis sur ce que vous dites, monsieur, vous parlez d'accompagnement, parce qu'effectivement, moi, en tant que journaliste, j'ai eu l'occasion de visiter des maisons, on va dire des maisons types, des appartements types pour des personnes âgées, mais il faut avoir fait vraiment de très grandes études, hein, pour y entrer. Parce que tout est automatisé, il y a des armoires électroniques, il y a des appareillages partout, on se dit au secours par moment. Donc vous, ce que vous préconisez, vous dites il faut vraiment faire du simple, il faut penser à l'accompagnement, il faut que ça soit adaptable, il ne faut pas que la personne, au contraire, ait un mouvement de recul.
Il faut faire du simple, encore une fois, du non-intrusif pour l'aider, mais surtout ne pas oublier que les technologies sont aussi là pour accompagner les aidants. Il y a un certain nombre de technologies qui sont faites pour fluidifier l'échange, la relation entre les aidants. Il me semble que sur le salon, il y a grosso modo, simplement dans le segment des services à la personne, il y a 18 métiers différents qui sont représentés. Ces 18 métiers différents sont potentiellement des métiers qui vont intervenir à domicile dans le périmètre de la personne âgée. Et il s'agit aussi, puisqu'on est quand même au carrefour d'un certain nombre de disciplines sociales, médico-sociales, sanitaires, etc., de faire en sorte que tous ces acteurs puissent échanger, puissent avoir partagé une démarche globale d'accompagnement de la personne âgée. Les technologies sont aussi là pour ça.
Monsieur Mezzantin, vous avez cofondé le groupe Médétique, je le disais en introduction, vous vous intéressez à la conception de solutions globales, innovantes, d'habitat connecté. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ces produits qu'on peut proposer aux seniors et qui vont être faciles d'usage? C'est quoi les priorités pour vous, les produits qui marchent bien ou ceux qu'il faudrait peut-être développer aussi? Parce qu'on est là pour voir quelles opportunités s'offrent aux entreprises demain.
Encore une fois, il y a différents temps de vie à partir du moment où l'on rentre dans la catégorie personnes âgées, vieux, il faut oser le dire. Alors est-ce que c'est 50 ans, 60 ans, 65 ans? Tout ceci est assez difficile à déterminer. En revanche, il est clair qu'on aborde la première partie de cette période avec un temps où on est parfaitement autonome, dynamique, actif, etc., et que l'on va plutôt rechercher des technologies qui améliorent votre confort de vie au quotidien, qui vous permettent d'avoir accès à de l'information ludique, à préparer vos voyages, à faire un certain nombre de choses. Puis progressivement, vont apparaître quelques petits signes de l'effet de l'âge sur le corps et sur l'esprit. Donc on va plutôt chercher des technologies qui permettent de sécuriser le domicile, de vous accompagner dans vos déplacements, de vous proposer des solutions qui vous permettent de recourir à de l'aide et à des secours. Et puis enfin, et si possible le plus tard possible, puisque l'objectif de toutes ces démarches, qu'elles soient humaines ou technologiques, c'est de retarder le plus possible le point d'entrée en dépendance, après, ce sont des technologies qui vont permettre d'accompagner et de surveiller les risques majeurs, comme par exemple le risque de la chute, dont on sait que statistiquement, il représente chez les personnes âgées, notamment de plus de 75 ans, l'un des risques les plus importants au domicile. Cela étant, il faut que ces technologies soient connectées à des interventions humaines. Pour l'illustrer, vous pouvez avoir la meilleure technologie du monde en matière de détection de chute. Si une fois que votre machine a détecté que la personne était tombée, si vous n'êtes pas organisé pour aller la ramasser, lui porter secours et organiser la suite des opérations, votre technologie, elle sert à rien. Donc, il faut les choisir.
Le service et les hommes derrière.
Voilà. Le service et les hommes, c'est les technologies et les services doivent impérativement être connectés.
On va donner la parole à M. Cadeau et à M. Moineau, qu'on n'a pas encore entendu ce sujet, mais vous vouliez réagir, M. Levd, sur ces histoires de produits et de domotique, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment.
Oui, moi, je vous rejoins complètement quand vous dites qu'en effet, la technologie est au service aujourd'hui des besoins des individus. J'ai envie de dire qu'elle peut être aussi au service des envies des individus. Le gros problème qu'on a avec la technologie, c'est que souvent les gens n'ont pas envie de l'avoir chez eux. Or, en fait, si vous leur vendez la technologie en leur disant ça va te permettre de faire quelque chose qu'aujourd'hui tu ne peux plus faire, là, d'un seul coup, on rentre beaucoup plus facilement chez les gens. Alors, ça peut être même des éléments pas technologiques, mais le fait de pouvoir, avec une canne qui fait très vieux quand même, avoir marché avec une canne, d'un seul coup, on se dit on vieillit, mais pouvoir sortir de chez soi, aller dans le parc, juste en face de chez soi, c'est un élément qui va faire passer la canne, ou aller dans son jardin, qui va faire passer la canne beaucoup plus facilement que si on lui dit « non, tu risques de tomber, tu vas te faire mal, tu vas peut-être mourir, donc prends ta canne ». Je caricature, mais en gros, on est vraiment sur donner envie d'eux. Et dans ces envies, le lien avec les autres, le lien avec les petits-enfants, le lien avec les enfants est un élément fondamental. Et un autre élément qui est important, c'est le fait de se dire je vais transmettre en fait mon savoir. Donc les technologies de l'information et de la communication notamment passent beaucoup par cette idée que on a accumulé de l'expérience, on a accumulé des connaissances, et ce serait bien d'en faire profiter d'autres personnes. Vous parliez de liens sociaux, de réseaux sociaux. Eh bien, sur cette transmission du savoir, on a des attentes qui sont très fortes et qui peuvent faciliter, en fait, l'accession à des produits, à des services que les individus autrement n'auraient pas acceptés chez eux.
Monsieur Cadeau, dans vos résidences avec services pour seniors, quels sont les produits phares dont vous disposez et ceux dont vous auriez besoin que des personnes dans cette salle pourraient éventuellement concevoir, imaginer ou vous vendre?
Alors, avant de parler de la résidence senior, je dirais que l'aménagement du logement ou de la maison, pour éviter que ça arrive à une tranche d'âge relativement âgée et que ça soit vécu comme quelque chose d'imposé, pourrait se faire beaucoup plus tôt dans la vie. Quand vous faites construire une maison aujourd'hui, les promoteurs devraient vous systématiquement vous proposer d'avoir une douche à l'italienne ou autre, parce que c'est pas parce qu'on a 60 ans ou autre qu'on devient plus âgé. On peut aussi se casser une jambe ou être en fauteuil roulant beaucoup plus tôt, malheureusement. Donc ça devrait être dans la vie de tous les jours, et je pense que la quantité ferait qu'on diminuerait les coûts, parce que quand vous faites aménager une maison qui a déjà été construite il y a quelques années, ça coûte toujours beaucoup plus cher que si vous le faites au démarrage. Nous, ce qu'ont besoin nos seniors quand ils rentrent chez nous, c'est le lien social et le lien avec la famille. La famille est souvent dispersée à droite à gauche, et ils veulent garder contact avec les enfants, les petits-enfants. Donc des choses plus faciles pour qu'ils puissent rentrer directement avec la télévision, avoir appuyé sur une simple télécommande et être en relation, en visu sur Skype ou autre avec les petits-enfants ou les enfants qui sont assez loin dans le monde aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, c'est une attente de nos seniors qu'on a en résidence aujourd'hui de plus en plus nombreuses. Et puis, nous, on a mis en place tout ce qui était sécurité, chemins lumineux et autres, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les chutes et malheureusement les cols du fémur interviennent très souvent la nuit quand vous vous rendez aux toilettes et autres. Le déplacement du lit aux toilettes est de plus en plus compliqué. Et la plupart du temps, la personne âgée, elle n'a pas le réflexe d'allumer la lampe ni la lumière. Elle y va dans le noir parce qu'elle a une certaine habitude d'y aller. Mais ce jour-là, il y a un obstacle et puis il y a la chute qui arrive. Donc le chemin lumineux, il permet quand même de préserver et d'éviter ce genre de chute.
Monsieur Moineau, alors vous intervenez à travers toutes vos agences au domicile des personnes. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui manque? Quelles sont les pistes qu'on doit suivre?
Je rejoins ce que disait Monsieur Cadeau, c'est notamment l'aménagement de l'habitat. Alors soit il peut être fait en résidence-service, soit directement sur le domicile. C'est pour ça que nous sommes associés, nous, avec une société qui s'appelle Domévi, qui proposait ce type de solution pour développer ces activités ensemble. Aujourd'hui, il n'y a que 6% du parc de logements en France qui est adapté au vieillissement et aux difficultés de mobilité. Et les principales chutes, on sait, sont dans les pièces d'eau. Donc l'un des produits que nous installons plus chez nos clients, ce sont effectivement des douches spécifiques. Et également dans la cuisine, où il y a également beaucoup de risques de chute.
Donc vous dites 6%, je retiens le pourcentage des données, c'est minuscule ça. Il y a vraiment un très gros marché.
Nous ne sommes pas les plus en retard, mais dans les pays nordiques, on est sur quasiment 25% des logements qui sont adaptés, qui correspondent plus aux proportions de la population.
Par rapport à ce que vous avez dit, moi, dans des résidences que j'ai visitées, les promoteurs disaient, il faut savoir que les adaptations qu'on fait, c'est valable aussi, c'est intéressant, pour les familles avec des enfants jeunes, pour la sécurité. C'est-à-dire que finalement, l'investissement qu'on fait en pensant aux seniors, il peut servir toute la vie. La douche à l'italienne, c'est pratique, ça évite de glisser dans la baignoire, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Finalement, pourquoi penser uniquement aux seniors? Est-ce que ce sont pas des équipements qui peuvent se servir tout au long de la vie?
Et pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qui peuvent avoir des difficultés qui sont identiques aux seniors.
Donc pensez globalement, voilà, aménager nos maisons avec un gros marché. Alors les marchés porteurs, on vient d'en parler, hein, vous avez dit le logement, l'adaptation du logement, il y a un gros travail à faire. Tout à l'heure, monsieur Cadeau, je crois, nous parlait de la ville. Hein, et ben oui, il y a peut-être des travaux publics à envisager. Il y a beaucoup de choses à faire. En matière de transport également, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a eu un salon de l'automobile il n'y a pas si longtemps ici à Paris qui a rencontré beaucoup de succès. Mais est-ce que nos véhicules, est-ce que nos moyens de transport sont bien adaptés? Est-ce qu'il y a des équipements? Est-ce qu'on peut imaginer des véhicules beaucoup plus pratiques?
On peut aller au-delà, c'est vrai, au niveau des moyens de transport. Je parlais du métro tout à l'heure. Au niveau des bus, on a déjà fait des propositions et des avancées en mesure où le bus se baisse. Mais quand on regarde le nombre de gens à mobilité réduite qui peuvent rentrer dans un bus, je crois que c'est 2 maximum. Donc on ne va pas très loin en mettant que 2 personnes dans un bus collectif, puisqu'il ne faut pas stigmatiser et puis mettre toujours les personnes âgées d'un côté, leur réserver un transport. Elles ont aussi envie de vivre avec monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on devient vieux qu'on doit avoir un bus spécifique. Donc on a envie de rentrer avec tout le monde. On nous oblige aujourd'hui, on oblige les entreprises, les commerces à avoir de l'adaptabilité très prochainement pour accéder à leur commerce et autres. Et je donnais l'exemple du métro. Au niveau du tramway, on a un peu avancé. Quand vous voulez monter dans un train, si vous voulez prendre le TGV et que vous êtes en fauteuil ou avec un déambulateur, vous y montez très difficilement. C'est un truc très, très archaïque pour monter dedans. Donc là, il y a aussi de la technologie à avancer. Pour prendre l'avion, c'est aussi très compliqué. Combien vous mettez de personnes à mobilité réduite dans un avion ? C'est limite, puisque aujourd'hui on vous sert de plus en plus et on essaie d'en caser le maximum. Donc on privilégie la rentabilité à l'accessibilité. Et ça, c'est un peu dommage aujourd'hui dans notre société.
L'accessibilité est un marché, c'est ce que vous êtes en train de dire. Un vrai marché à développer. Il y en a d'autres, auxquels vous pensez, des marchés porteurs, qu'on peut développer ici en France, mais aussi vendre à l'étranger. Je crois que l'un de vous, c'est vous, monsieur, qui vous parliez avant cette rencontre de la Chine. Parce que la Chine vieillit à toute allure avec la politique de l'enfant unique. Demain, il va y avoir un paquet de seniors en Chine. Il faut aussi penser, pas seulement France, mais Europe et monde.
Alors effectivement, la problématique que nous avons, elle n'est pas franco-française. Déjà, en matière de statistiques et de démographie, à l'échelle européenne, on est à peu près tous logés à la même enseigne. Il y a quelques variations près. Un certain nombre de pays ont eu des approches différentes qui sont aussi, je dirais, liées à leur organisation sociétale, à l'organisation du système de santé, des modes de financement de la retraite, etc. Donc ça leur a permis d'avoir une approche un peu différente de l'approche française. En revanche, quand on conçoit des solutions et des produits, effectivement, il n'y a aucune raison de ne les penser que dans le cadre d'un usage interne aux frontières de notre pays. Je pense qu'il y a 2 dimensions importantes. Il y a effectivement l'aspect conception quand on imagine une solution destinée à terme, parce qu'encore une fois, elles peuvent être évolutives. Il ne s'agit pas de designer, de concevoir des solutions qui ne sont utilisables qu'à partir du moment où on est rentré dans l'autonomie ou au moment où les premiers accidents sont arrivés, mais de penser en amont à une conception globale et transversale qui permette à l'environnement, au logement, aux véhicules, aux objets de sa vie quotidienne, et bien de s'adapter à un usage un peu différent qui va évoluer au fil du temps. Et il y a une dimension qui me paraît particulièrement importante. Vous voyez bien que déjà, rien qu'autour de cette table, nous avons des profils et des métiers extrêmement différents. En revanche, si on veut approcher cette problématique de manière efficiente, il est nécessaire que nous nous parlions entre nous. Ceux qui s'occupent du logement, ceux qui s'occupent des services, ceux qui ont une approche plus sociale, ceux qui fournissent des technologies, etc. Et nous manque tout un tas d'autres métiers autour de la table, issus du sanitaire et du médico-social. Et il faut que tout ce monde-là apprenne à se parler et apprenne à se parler sur la base d'un vocabulaire commun. Et l'un des axes que, notamment au sein de la Fédération française de technologie, nous poursuivons, c'est celui de la sensibilisation de nos membres aux autres métiers qui sont concernés par cette approche de l'accompagnement de la perte d'autonomie.
Et aujourd'hui, il n'y a pas de lieu pour se parler. Alors, il y a des lieux comme ceci, il y a des événements comme Silver Economy Expo, etc. Mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de structure qui existe.
Alors, il n'y a pas réellement de structure qui existe, encore une fois, par secteur, par métier. Les gens se regroupent
chacun
et effectivement discutent entre eux. Ouais. Mais on a une approche, à mon sens, très cloisonnée en France, avec des silos qui ne communiquent pas forcément entre eux. En revanche, il y a des initiatives qui sont prises, notamment en termes de formation. Pour vous donner un exemple, dans la région de Lille, eh bien, on essaye de mettre en place des filières de formation qui communiquent entre elles. Vous avez la filière de formation des ergothérapeutes qui va à la rencontre de la filière de formation des domoticiens et inversement. Ne serait-ce que pour donner un minimum de culture commune aux uns sur le métier de l'autre, de telle sorte que le jour où ils se rencontrent sur le terrain, ils ne soient pas surpris. Aujourd'hui, vous prenez un électricien ou un domoticien, vous lui demandez si une fois dans sa vie il a rencontré un ergothérapeute, le gars vous regardera avec des grands yeux sans comprendre réellement de quoi vous lui parlez. Donc il faut essayer d'agir en amont pour provoquer cette rencontre et cet échange-là.
Monsieur Moineau, il faut se parler pour réussir dans ce métier ?
Alors, oui, après il y a aussi des cloisonnements entre secteur privé, secteur médico-social. Donc ça, c'est, les lignes sont un peu en train de bouger, mais effectivement il y a des choses à faire au niveau de la coordination de tous ces acteurs. Et je pense que si tout le monde est là aussi aujourd'hui, c'est parce que tout le monde ressent qu'il y a des besoins qui sont forts. On est aujourd'hui sur des secteurs qui sont en croissance même forte. Beaucoup d'acteurs qui sont présents aujourd'hui sur le salon ont des croissances à deux chiffres, ce qui dans le contexte actuel est pas important. Donc ça veut bien dire qu'il y a des besoins et qu'il y a besoin de se rassembler, de se parler pour dynamiser le secteur.
Une question également, messieurs. Il faut se parler, il faut se connaître les uns les autres pour réussir à attaquer ces marchés, mais il faut aussi savoir leur parler aux seniors. Et on a l'impression qu'on a du mal quand même. Appeler un chat en chat en France, dans le marketing, dans la pub, parler des seniors, on ne sait pas. Je suis le premier à en témoigner. Quand vous travaillez pour des magazines pour seniors, on voit rarement de beaux vieillards, des dames aux cheveux blancs, en couverture ou à l'intérieur. Ils nous font peur, ces seniors. Alors, est-ce qu'il faut faire notre révolution culturelle dans la manière d'approcher ce vaste marché d'avenir des seniors, à votre avis ? Parce qu'on a l'impression que là, on est très hésitant, qu'on a peur quand même, non ?
Je crois que, si vous voulez, il faut pas simplement regarder les choses sous l'œil de... sous l'angle de l'évolution de la démographie, on a affaire à un véritable changement sociétal. Et c'est ce changement sociétal dans son ensemble qu'il faut considérer. Il y a des choses qui évoluent, comme le disait monsieur, les frontières sont en train de bouger, mais il faut que globalement la société change son regard sur les vieux. C'est capital. Un vieux, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de lui. C'est pas la vieillesse, c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui nous attend tous. C'est quelque chose qu'il va falloir accompagner, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans nos approches quotidiennes, qu'elles soient commerciales, industrielles, dans les approches de design, de construction, de gestion de l'emploi, de gestion des services. Enfin voilà, la globalité de la société doit changer son regard sur le vieillissement. C'est impératif et je pense que c'est en train. C'est une prise de conscience qui est en train de se faire progressivement,
mais il y a encore un petit bout de chemin à faire. Monsieur Levédé, qui opine du chef, il est d'accord.
Oui, pour compléter ce que vous disiez, on est dans une société dans laquelle le fondement, ça a été la jeunesse apporte la modernité. Hein, mai 68, ça a été, on fait casser la société telle qu'on l'imaginait, elle est archaïque, on a besoin de liberté, on a besoin de pouvoir s'exprimer, et donc du coup, c'est la jeunesse qui apporte ceci. Donc notre société, avec la croissance démographique d'après-guerre, avec cette génération pivot qui a apporté un nouvel élan, de nouvelles valeurs importantes, l'individualisme, on a mis en avant non pas la solidarité entre les générations, mais l'individu comme étant un individu autonome. Et cette autonomie, elle est plus forte quand on est jeune que quand on est plus âgé. Donc ça, c'est la base. Aujourd'hui, les choses changent. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, cette génération pivot de mai 68, elle arrive à l'âge d'être senior et à l'âge d'être vraiment âgée. Donc du coup, elle a toujours porté cette modernité. Elle ne voit pas pourquoi, parce qu'elle arrive à la retraite, elle ne la porterait plus. Donc le regard de la société va changer, non seulement parce qu'il y a plus de seniors, mais aussi parce qu'en fait, ceux qui ont été la génération pivot veulent le rester. Donc ça, c'est un élément fondamental dans notre réflexion. Autre dimension qui me semble importante dans ce domaine-là, c'est que... on ne va pas pouvoir faire autrement que de changer notre point de vue, parce que les marchés vont se déplacer vers les plus âgés. On est dans, surtout si on reste dans une situation à très très faible croissance, le pouvoir d'achat, même s'il va se réduire chez les seniors, il sera potentiellement, proportionnellement plus important chez eux. Donc c'est chez ces marchés-là qu'il va falloir aller chercher des relais de croissance. Vous le disiez tout à l'heure, des croissances à deux chiffres, on en voit dans peu de marchés aujourd'hui. Cependant, pour y arriver, il me semble qu'on ne peut pas capter les seniors au moment où ils le deviennent ou au moment où ils commencent à être dépendants ou avoir des problèmes de santé. Il faut les capter bien avant. Donc on est plus dans une démarche marketing intergénérationnelle que autrement. Un des exemples peut-être de meilleure réussite, c'est tout ce qui se fait dans les cosmétiques où en fait les femmes et les hommes sont capables de comprendre qu'en effet, à 30 ans, ils n'ont pas la même peau qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60 ou qu'à 70. Même si à 70, on ne montre pas une dame de 70 ans, on n'en montre pas une qui a 40 en tout cas. Donc il y a une possibilité de suivre en fait nos consommateurs en leur disant bah, « je vous accompagne tout au long de votre vie en fonction des besoins qui sont les vôtres et qui changent parce que bah, vous êtes plus expérimenté, donc on ne vous la fait pas de la même manière en matière de marketing. Vous êtes, vous avez plus de difficultés sur certains éléments, vous avez plus de besoins que d'autres. Donc du coup, je vous accompagne dessus. » En accompagnant les consommateurs tout au long de leur vie, on a cette possibilité d'intégrer le processus du vieillissement, mais le vieillissement il commence dès 20 ans, hein. On commence à perdre des neurones à partir de là, donc on peut faire comprendre aux gens que vieillir c'est pas bien entendu un processus de décrépitude, c'est un processus normal, naturel, lié à la vie. Vivre c'est vieillir quelque part.
C'est sympa de nous redonner un peu le moral, c'est gentil, monsieur Lévédé. On va prendre 5-10 minutes maintenant, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, parce que le temps passe très vite, il y a plein de choses à dire sur le sujet, et une heure, malheureusement, n'y suffit pas. Mademoiselle et monsieur, un micro en main, si vous avez une ou deux questions précises à poser, je vois monsieur au deuxième rang qui a levé la main à nos intervenants, c'est le moment de le faire. Puis ensuite, eh ben, on vous demandera en conclusion vos messages clés, vos idées fortes, ce avec quoi on doit ressortir de cette réunion pour avoir toutes les chances, mettre toutes les chances de son côté pour attaquer le mieux possible ce vaste marché des anciens jeunes hein, que sont les seniors et qui ont de l'avenir. Hein.
Oui, monsieur. Bonjour, Marc Lambert, Smart TV. Je voudrais revenir sur les chiffres du Crédoc, sur le dernier slide que vous avez passé, avec ces deux revenus importants entourés de revenus moins importants. C'est surtout celui qui est intermédiaire, ça m'interroge parce que est-ce que c'est dû à un effet contextuel ou à un effet générationnel? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une paupérisation de tout le grand âge au fur et à mesure des années? Parce que vos chiffres étaient de 2006 et moi je m'interroge juste sur le fait que si on a une paupérisation, à savoir une décroissance des revenus, où est-ce qu'on va chercher les relais de croissance comme vous en avez bien parlé?
Monsieur Lévédé.
Alors, sur le dernier âge, on va plutôt avoir dans les 20 ou 30 ans à venir des évolutions de revenus qui vont être plus fortes. Parce que vous passez là de générations qui sont des générations où simplement l'homme travaillait et pas la femme. Donc aujourd'hui, quand on est chez les plus vieux, on a une très très forte majorité de femmes. Donc on est sur des gens qui n'ont pas de revenus de retraite, mais plutôt des revenus de reversion. Donc on a mécaniquement, par le fait qu'on va avoir des gens qui ont travaillé au moins une partie de leur vie, des niveaux de revenus qui vont augmenter chez ces populations. Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel, en effet, on va essayer de refaire cette enquête sur les données qui viennent de sortir de l'enquête budget des ménages 2011. Et on devrait voir que sur cette catégorie-là, d'ores et déjà, on a une augmentation des revenus. Sur les plus jeunes, ce sera l'inverse. C'est-à-dire que on a fait le plein des ménages qui ont eu une carrière complète avec deux revenus. Et là, on va avoir plutôt des ménages sur lesquels les carrières n'auront pas été complètes. Donc, il y aura eu des périodes de chômage. Donc, il y aura des niveaux de revenus qui seront plus faibles.
Autre question, mesdames et messieurs. N'hésitez pas.
Madame. Moi, j'ai une question sur la méthodologie d'innovation et de développement de produits destinés aux populations plus seniors. Est-ce qu'on intègre des personnes seniors dès la conception, dès le design? Parce que vous avez parlé des ergothérapeutes, mais il me semble que quand on conçoit un produit, maintenant, on analyse un peu son cycle de vie, mais aussi son cycle de vie par rapport à l'usage de la personne en fonction de son âge. Et donc, ça me paraît très intéressant que vous expliquiez si vous avez, identifié des innovations, en tout cas en termes de méthodologie de développement de produits pour cette population.
Alors, messieurs, est-ce que vous associez les seniors, grosso modo, à la conception de ces produits, quoi, pour pas mettre à côté de la plaque, quelque part?
Alors, en matière de produits technologiques, bien évidemment, il n'y a pas d'autre choix possible ni envisageable. L'approche de type Living Lab est une approche qui s'est très très développée en France, qui a déjà été pratiquée de longue date à l'étranger, et qui consiste à mettre effectivement des seniors en présence d'un certain nombre de prototypes de produits pour les amener à se prononcer sur la qualité de l'usage, la compréhension du produit, son accessibilité, etc. Et ça donne parfois des résultats très étonnants. Pour vous donner un exemple, on voit énormément de solutions de développement, de liens sociaux, de communication se développer autour de tablettes. Bien ces tablettes, il y a d'autres formats, il y a d'autres form factors qui ont été testés, la télévision connectée, la tablette, le smartphone, etc., qui ont été mises entre les mains de groupes de personnes âgées avec des ergothérapeutes, des psychologues, etc., qui les ont accompagnés dans la démarche de test, et puis on a vu émerger de manière assez systématique la tablette dans les choix qui ont été faits. Et un des plus importants reproches qui est fait à la tablette aujourd'hui, je pense que personne d'entre vous ne l'a en tête, et ceux qui ont participé à ces campagnes de test ne l'avaient pas imaginé, c'est qu'il n'y a pas de poignée pour la transporter. Parce que quand on se déplace avec un déambulateur, quand on se déplace avec une canne, et puis qu'on veut aller utiliser sa tablette dans son fauteuil favori devant la télévision, bah, il faut qu'on la transporte sur quelques mètres. Et transporter une tablette aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour une personne qui a de l'arthrose dans les doigts et qui ne peut pas pincer un objet qui pèse 300 ou 400 grammes facilement au cours de son déplacement. Donc une tablette avec une poignée serait une innovation qui serait extrêmement favorablement accueillie par le monde des seniors.
Donc voilà un produit à inventer. Monsieur avait une question, puis ensuite on sera obligé d'en arriver à la conclusion de notre rencontre. Le temps passe très vite, hélas.
Alors désolé, j'ai deux questions, mais les réponses seront rapides. Premièrement, que pensez-vous de l'influence des services en ligne, services numériques en ligne, sur tablette, sur smartphone, et l'influence que ça pourrait avoir pour casser les silos en France et casser les fonctionnaires et les guichets, éventuellement? Ça, c'est ma première question. Et est-ce que ça n'a pas une influence? Ma deuxième question, c'est le risque dépendance n'est-il pas un terrible obstacle politique? Les idées de promesses de risque dépendance dans la sécurité sociale, est-ce que vous ressentez ça comme un frein pour développer des business en France?
Alors, deux questions de conclusion avant de vous demander votre message. Je vous vois dubitatif, messieurs.
En fait, je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question, donc n'hésitez pas
à la reformuler. Si ma réponse, alors on reprend la première, les services en ligne, et puis après on a parlé
à la seconde.
De
aujourd'hui, c'est une nécessité de financer la dépendance, et même s'il y a une baisse de revenus, on ne le voit pas, mais il y a tout un tas de dispositifs qui existent. Hein, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nos secteurs ne souffrent pas aujourd'hui. Il y a l'APA, il y a le financement sur l'aménagement du domicile, il y a le financement des caisses de retraite, des mutuelles, etc. Donc ce que nous on appelle les tiers payeurs, d'où ce développement se fait aussi par le biais de prescripteurs locaux, nationaux. On n'est pas trop inquiet, alors peut-être aussi parce que nous on faisons 30% de croissance, donc on ferait peut-être davantage s'il n'y avait pas ce contexte économique. Au contraire, on sent que c'est un vrai sujet de société, c'est un enjeu presque d'État. Il faut financer la dépense, et ça coûte moins cher de financer le maintien du domicile à son domicile ou dans une résidence service que de miser tout sur les maisons de retraite et l'hospitalisation.
Et alors les services en ligne, c'était l'autre question, monsieur, l'intérêt de ces services en ligne vis-à-vis des seniors?
Sur les services en ligne, il est évident qu'ils peuvent contribuer, à leur manière, aux différentes étapes de vie des seniors, mais il lève un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord, encore une fois, ça ne sont pas des services de substitution, ils ne sont pas là, je dirais, pour dépersonnaliser totalement la manière dont on accompagne la perte d'autonomie, les personnes âgées, les personnes dépendantes de manière générale. Néanmoins, il lève la problématique de l'éthique de l'usage des données. À partir du moment où on est connecté à des services en ligne, eh bien, on va pouvoir aussi capter un certain nombre de données médicales, comportementales, etc., dont il va falloir faire bon usage. On peut le faire de manière très intelligente et dans l'intérêt même de la personne, à condition qu'on n'en détourne pas l'utilisation comme on a pu le voir dans d'autres segments de marché.
Messieurs, dans les 5 minutes qui nous restent, je voudrais votre conclusion à chacun. Les clés de la réussite selon vous, vos conseils essentiels pour devenir un acteur solide de cette filière de la silver economy. On a entendu des mots, hein, on a entendu les réseaux, la transversalité, la franchise, on n'a pas trop parlé. Mais monsieur Levédé, vous Crédoc, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Quel conseil vous donneriez en tant que... expert des statistiques et de l'observation de notre société?
Alors, du point de vue des consommateurs, il y a tous les secteurs qui ont des opportunités. Hein. On en a parlé de certains particulièrement, mais tous sont concernés par ces opportunités parce que la croissance de l'activité va se faire vers les seniors dans tous les secteurs. Le deuxième élément, c'est que, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est de l'innovation d'usage. C'est-à-dire que vous êtes avec des gens qui cherchent à se simplifier la vie et à pouvoir continuer à faire des choses. Et donc, on est dans l'innovation d'usage. Il faut de la technologie, peut-être, pour le faire. Mais en tout cas, on n'est pas uniquement dans de la technologie. On est d'abord dans de l'innovation d'usage. Et puis, pour réussir à donner envie aux gens d'acheter ces produits, il y a certes, ça me simplifie la vie, mais il y a aussi, ça me permet de rester... socialement intégré dans la société. Donc toutes ces dimensions de transmission intergénérationnelle, de passage d'expérience sont des éléments qui sont fondamentaux pour donner envie aux gens d'acheter des produits et des services.
Monsieur Monod.
Vu que je suis le franchiseur de la table, je vais prêcher pour le commerce organisé. Aujourd'hui, le marché est en train de se structurer, que ce soit le marché des services à domicile, et on anticipe la même chose sur l'aménagement de l'habitat. La croissance, elle est tirée par les réseaux pour tout un tas de raisons, hein, de mutualisation de moyens, de marketing, de conventionnements nationaux, de référencement de partenariats. Donc le conseil que je vous donnerai à ceux qui veulent entreprendre sur ces secteurs, c'est de s'affilier à un réseau, et à un bon réseau. Il y en a plusieurs qui sont présents aujourd'hui. Nous serons ravis d'échanger avec vous si vous avez des projets sur nos stands, mais on n'est pas le seul bon franchiseur. Ils sont quasiment tous là aujourd'hui, enfin sur le salon, donc profitez-en pour les rencontrer.
Monsieur El Manani, vous qui êtes dans le médico-social.
Je ne veux pas forcément parler du domaine de la santé, mais je dirais que par rapport à ce qui a été dit, c'est vraiment une approche multi-acteur et pour offrir des bouquets de services, notamment sortir de son entreprise. Hein, c'est pas de rester en silo dans son secteur d'activité, mais d'aller voir un peu avec tous les acteurs sur le marché comment on peut répondre efficacement à la demande et aux attentes des seniors. Et ça va être, je pense, la clé de la réussite, tout en les intégrant dans l'innovation des produits. Essayer de réfléchir à une nouvelle façon de travailler véritablement. Il faut bousculer un peu les lignes, mais on ne s'adressera pas aux seniors qui ont une grande expérience. Le marketing, ça va pas marcher avec eux directement. Il va falloir vraiment réinventer les choses, une autre approche, leur parler vrai et surtout être à la hauteur du produit vendu. C'est-à-dire que c'est pas tout de vendre un produit, mais c'est derrière quels sont les services qui sont tout le service après-vente, tous les services qui vont être apportés et associés au produit, qui vont leur donner confiance et qui va faire marcher le bouche à oreille. Voilà. Et je pensais à un concept, si on travaille en partenariat, de guichet unique pour leur simplifier la vie. Ce guichet unique qui leur permettrait d'avoir accès au bouquet de services, jouer un rôle de facilitateur de commande également, et de voilà, tout ça en favorisant le travail en synergie avec tous les partenaires.
Merci monsieur. Monsieur Cadeau, vos préconisations?
Moi, mes préconisations seraient plus vis-à-vis de l'administration. Aujourd'hui, quand vous gérez une entreprise, vous passez 60% de votre temps à gérer votre entreprise et 40% à gérer du papier pour l'administration. Donc ça serait passer 90% de son temps à gérer son entreprise et 10% à gérer du papier pour l'administration. Je pense que ça favoriserait l'entrepreneuriat en France.
Merci monsieur. Enfin monsieur Mezzantin, le mot de la fin ou presque?
Effectivement, face à cette société qui change, la simplification des procédures administratives, la simplification de l'approche législative de manière générale est indispensable, autant que ne l'est le changement, encore une fois, global du regard de la société que nous portons sur nos vieux. En termes de caractéristiques particulières des métiers de ce secteur, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'éthique, Il faut avoir une vision la plus transversale possible, une grande capacité d'écoute et d'accompagnement et une volonté importante d'échanger avec tous les secteurs concernés. Donc penser globalement mais agir localement au travers d'une collaboration et une coopération extrêmement étroite avec tous ceux qui sont concernés par l'accompagnement de la perte d'autonomie.
Merci beaucoup messieurs d'être intervenus à cette table ronde. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs. Je voudrais vous rappeler que toutes ces conférences, si vous avez manqué le début du film, comme on dit, sont enregistrées en audio. Vous pourrez les écouter sur le site du salon au cours de ces prochaines semaines.